L'Éternel est un refuge. L'Éternel est un refuge. Alors, comme Michel l'a mentionné, c'est la suite de ce que je vous ai présenté il y a environ un mois. Alors, on va se courber, on va remettre ce temps dans les mains du Seigneur, puis après ça, on va regarder la parole de Dieu. Merci, Père Céleste, parce que tu es un refuge pour nous, Seigneur. Un refuge qui ne manque jamais dans la détresse. D'aucune sorte, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour envers nous, Père, pour le salut que tu nous as donné. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour ta protection, Père. Merci pour la paix du cœur que tu nous offres, Seigneur. Merci pour ce refuge éternel que tu as en réserve pour nous, Seigneur, pour l'éternité. On te loue pour toutes ces choses, Père. On te prie de guider cet avant-midi, de parler à nos cœurs, de nous conduire. On te le demande, Père, au nom de Jésus. Amen. Alors, un refuge, c'est un endroit habituellement où est-ce qu'on peut aller quand ça presse. On est en forêt. On se fait prendre par l'orage, oups, on peut se sauver, aller se réfugier. Ça peut être juste en dessous d'un rocher, en dessous d'un arbre, une cabane. C'est quelque chose qui est disponible facilement puis proche. On a dit que, premièrement, que l'Éternel est un refuge pour le salut de notre âme. L'apôtre Paul, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Il dit, or, l'espérance qu'on voit n'est plus une espérance. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? Quand on lit ce verset-là, on peut se demander, l'apôtre Paul, est-ce qu'il est après dire qu'il espère d'être sauvé? Est-ce que c'est ça qu'il nous dit? Il dit, c'est en espérance qu'on est sauvé. Est-ce que l'apôtre Paul espère être sauvé? Non, pas du tout. C'est pas ça. L'apôtre Paul, il est sauvé. S'il avait voulu dire qu'il espérait être sauvé, il aurait dit, c'est en espérance que nous serons sauvés. Mais c'est pas ça qu'il dit. Il dit, nous sommes. C'est en espérance que nous sommes sauvés. C'est le présent. C'est l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que ce salut-là, que Dieu nous a donné, qu'on n'est pas capable de l'utiliser dans sa pleine... On n'est pas capable de l'utiliser pleinement. Je vais vous donner un exemple. Monsieur, à Noël, votre épouse vous donne une belle canne à pêche. Alors, vous développez ça, vous enlevez le papier d'emballage, vous mettez du fil après le moulinet, mettez une trôle, un hameçon, même vous sortez sur le patio, puis vous faites pour voir si c'est comment ça va. Après ça, en plein hiver, on ne peut pas pêcher. Le printemps arrive, vous achetez votre permis, vous commencez à faire des plans pour... Tout ce temps-là, la canne à pêche, vous l'avez, elle est à vous, mais vous ne pouvez pas vous en servir pleinement. Vous pouvez aller dans le garde-robe, la sortir, la voir, mais vous ne pouvez pas vous en servir pleinement. Le mois d'avril arrive, vous êtes impatient d'aller à la pêche, puis ce que vous avez surtout hâte, là, le moment où ce que vraiment la canne à pêche, vous allez en profiter pleinement, c'est quand? C'est quand ça va mordre. La première belle truite que vous allez prendre, quand ça va mordre, là, vous allez... appréciez votre canne à pêche, vous allez goûter pleinement à ce cadeau-là que vous avez reçu. Bien, le salut, c'est un peu la même chose. Il n'y a pas d'autre nom que le Seigneur, celui du Seigneur Jésus. Dans l'apôtre Pierre, dans Actes 4, 12, il dit ça. Il dit, il n'y a pas de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alors, le salut, c'est comme ça. Comme je n'ai pas douté que la canne à pêche m'appartenait, que je l'avais, je ne doute pas que j'ai le salut. Je ne doute pas de ça du tout. Je sais que la croix de Christ, que ma foi dans la croix de Christ, dans le salut de Christ, c'est suffisant pour me payer, pour me donner ce salut-là. La repentance que j'ai faite, la prière pour obtenir mon salut, je sais que c'est suffisant, je n'ai pas besoin d'autre chose que ça. Je sais que ce salut-là, il m'appartient, que j'ai été pleinement exaucé. Puis que, oui, peut-être que je ne suis pas en mesure d'apprécier pleinement ce salut-là, de l'utiliser pleinement, d'y goûter pleinement, pareil comme la canne à pêche, mais je sais que un jour, je vais venir dans la présence du Seigneur, puis là, ce salut-là va m'être, je vais y goûter pleinement, il va m'être pleinement révélé. Je vais savoir c'est quoi, c'est comme quand je vais en pêche, je sais pas qu'est-ce qu'il y a au bout de la ligne tant que je ne l'ai pas, mais quand je vais être en présence du Seigneur, c'est là que je vais goûter pleinement le salut. Alors, comme le printemps va venir, le salut, il y a une journée où on va se trouver dans la présence du Seigneur. Alors, l'Éternel est pour nous un refuge pour notre salut. Si on veut se réfugier ailleurs que dans le Seigneur pour le salut, ça ne fonctionne pas, on est dans l'erreur. Deuxième point qu'on a vu, on a vu que le Seigneur est un refuge pour le pardon de nos péchés. Bien évidemment, quand on vient au salut, le Seigneur est un refuge pour le pardon de nos péchés, mais aussi, pas seulement quand on à la conversion, mais dans nos vies chrétiennes, dans notre marche chrétienne. Il y a juste un péché qui ne peut pas être pardonné, c'est le rejet du Seigneur Jésus. Si je rejette le Seigneur Jésus, il n'y a pas de pardon possible. La seule manière que je peux être pardonné, c'est à travers Jésus. Il pardonne toutes nos iniquités. Dans le psaume 103, on avait vu ça, psaume 103, les versets 3 et 4, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Alors, l'Éternel est un refuge pour le pardon de mes péchés. Quand je pêche, j'ai deux choix devant moi. Je peux faire comme Adam et Ève. Quand Adam et Ève ont pêché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés se cacher. Ils pensaient que peut-être Dieu ne les avait pas vus, ou que peut-être que si Dieu les avait vus en se cachant, puis avec le temps arrangerait les choses, puis que la relation avec le Seigneur reviendrait normale. Alors, si je pêche, je peux avoir cette attitude-là. Aller me cacher, puis dire, un matin, je ne suis pas ben à l'aise pour prier avec ce que j'ai fait, avec ce que j'ai sur le cœur, je ne suis pas à l'aise de prier, mais je vais attendre une couple de jours, puis là, mon cœur va s'apaiser, puis ça va redevenir normal. Alors, j'ai le choix de faire ça, ou de venir au pied du Seigneur maintenant, de confesser mes péchés, puis d'être entièrement pardonné, puis de retrouver la complète communion avec le Seigneur, immédiatement. Je peux faire ça chaque jour, je le fais. Quand je commence mon culte le matin, je mets ça au point avec le Seigneur, je confesse mes péchés. Le soir, quand je me couche, je vais encore parler au Seigneur. L'apôtre Jean, il a dit dans 1 Jean, au chapitre 2, le verset 1, il dit, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Puis après ça, il dit, « Il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de tout péché. » Alors, l'Éternel est un refuge pour le salut, pour le pardon de nos péchés. Quand on pêche, il ne faut pas garder ça, il ne faut pas vivre avec le péché, il faut se débarrasser du péché. Puis le seul moyen de se débarrasser du péché, c'est de se réfugier dans le pardon que le Seigneur Jésus nous offre. Le troisième point qu'on avait vu, c'est que l'Éternel est un refuge pour ma protection. Alors, on avait vu le psaume 46, versets 2 à 4 et 8 à 12, je peut-être une erreur là-dessus, là. Psaume 42, 46, verset 2 à 4. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Alors, Dieu nous protège. On ne s'imagine pas, on ne voit pas qu'est-ce que Dieu, comment Dieu nous protège, qu'est-ce que Dieu fait pour nous. Mais on sait que l'Éternel nous protège. Puis quand on est face à des dangers, quand on est face aux dangers, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut venir au pied du Seigneur, puis réclamer sa protection, se réfugier dans la protection du Seigneur. Les enfants d'Israël, on voit ça dans Exode, au chapitre 13, verset 21. Les enfants d'Israël, Dieu les a conduits, puis au Exode 13, 21, ça dit, « L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. » Dans nos vies, c'est la même chose, on est des enfants de Dieu. Puis l'Éternel nous protège, l'Éternel veille sur nous jour et nuit, ne sommeille pas, nous dit, je crois que c'est Ésaïe qui dit ça, il ne sommeille ni ne dort, il veille sur nous. Alors, l'Éternel est un refuge pour la protection, pour notre protection. Maintenant, ce matin, je voudrais voir deux autres aspects de la protection, du refuge qu'est le Seigneur pour nous, qui peut être pour nous, parce que ça se peut qu'on ne se réfugie pas auprès du Seigneur. L'Éternel est un refuge pour la paix du cœur. Est-ce que ça vous arrive parfois d'avoir le cœur lourd? On pourrait qualifier, mettre ça sous l'étiquette d'inquiétude ou souci ou préoccupation. Soit qu'il y a des problèmes, nos enfants un de nos enfants a des difficultés importantes. Soit que notre santé décline, puis on ne peut pas profiter de la vie comme on l'aurait espéré. Soit qu'il y a des factures qui s'accumulent, puis on a de la misère à prendre le dessus. Ou soit n'importe quel autre souci qu'on a. Cette semaine, je me suis levé un matin, puis là, il y a quelque chose qui m'a envahi. Là. Des fois, il y a des choses qu'on a en arrière de la tête, puis c'est une petite préoccupation, mais des fois, il y a des choses qui envahissent notre cœur, qui envahissent notre cerveau, puis notre cœur. Ça, c'est pas... Des fois, ça peut être de notre faute, ça peut arriver que ça soit à cause du péché, mais des fois, c'est pas ça. Des fois, c'est les aléas de la vie qui nous... c'est de l'inquiétude. Alors, c'est parce que notre cœur, on n'a pas... On a besoin d'aller au Seigneur, se réfugier pour avoir la paix dans nos cœurs. On n'a pas la paix dans le cœur. Si ça ne vous arrive pas, vous êtes chanceux. Alors, un matin, cette semaine, je me suis levé, je me suis fait un café, je me suis assis pour faire mon culte, à lire, puis là... S'il y a quelque chose que j'avais là, depuis la veille, ça m'a comme envahi là, au point que là, tu sais, j'essayais de lire, là, mais je n'étais pas capable de me concentrer. Ça, les pensées, c'est un petit peu des pensées là, obsessives ou des pensées là, qui ne veulent pas s'en aller, qui ne veulent pas se calmer. Là, j'ai fermé mes yeux puis j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit « Seigneur, je t'ai après prêché sur le fait que tu es un refuge, puis que le fait que tu es un refuge pour la paix de nos cœurs. Puis là, un matin, je n'ai pas la paix dans mon cœur. Puis j'ai demandé au Seigneur de calmer mon cœur, de pouvoir me réfugier, de pouvoir abandonner cette préoccupation-là au pied du Seigneur. Et j'ai ouvert les yeux, puis c'était parti. C'était parti. C'était parti, puis le Seigneur s'occupe de ça. Il faut le dire au Seigneur quoi faire. Le dire au Seigneur, Seigneur, il y a juste toi qui peux me secourir. Il y a juste toi que... Je ne peux pas dire ça à personne d'autre, là. C'est juste toi qui peux me faire ça. Dans bien des circonstances de nos vies, on traîne des choses, puis ça peut être des semaines, des mois, puis même des années qu'on peut traîner des fardeaux sur nos cœurs, alors qu'on a la possibilité de venir au pied de la croix, puis de déposer ça avec une foi ferme pour être capable de mettre ça sur l'épaule, d'enlever ça sur nos épaules, puis le mettre sur les épaules du Seigneur. Dans Matthieu, au chapitre 11, verset 28 à 30, un verset qu'on connaît par cœur, il est là-bas. Matthieu 11, 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous recevrez et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Un joug, là, c'est une affaire qu'on met sur le dos d'un bœuf ou d'un cheval pour porter les fardeaux. Puis le Seigneur, il nous dit, le fardeau que tu as sur ton épaule qui est pesant, là, donne-moi-le, moi je vais te donner le mien, puis tu vas voir que le mien, il est léger, bien plus léger que le tien. On a besoin d'apprendre à venir au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il nous invite, il dit, venez à moi, venez à moi. Déposez vos fardeaux pesants, puis prendre les instructions, mes instructions, les instructions du Seigneur. Puis, quand on lit les Écritures, des fois, on voit des passages où c'est pas nécessairement des promesses, c'est des principes bibliques. Comme par exemple, instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Ça, ce n'est pas une promesse, c'est un principe biblique. C'est un principe biblique qui dit que lorsqu'on met ça en pratique, le résultat naturel, en général, c'est positif. Mais on sait que on les instruit, nos enfants. Nous autres, on a 5 enfants, on les a tous instruits dans la voie qu'ils sont supposés suivre. Puis, c'est pas tout égal. Il y en a qui suivent le Seigneur comme il faut, mais il y en a que ça boite pas mal. Mais ici, c'est pas ça. Ici, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. » Ça, c'est quoi? C'est une promesse, c'est un engagement de Dieu, un engagement du Seigneur. C'est simple. Puis, il rajoute ceci, il dit, « Mon joug est doux. » On n'a pas besoin de craindre les réprimandes du Seigneur si le fardeau qu'on a sur nos épaules, il dépend d'un péché ou des fois, on se met les pieds dans les plats, sans nécessairement que ce soit du péché. On se met les pieds dans les plats, puis ça nous cause des soucis. Mais on n'a pas besoin d'avoir peur des réprimandes du Seigneur. Il dit, mon joug est doux. Jésus, il est doux. Puis, il est humble de cœur. Jésus, il est doux et humble de cœur. Puis, il dit, vous trouvez du repos pour vos âmes. Il est humble. Il ne va pas vous rejeter parce que vous êtes indigne. On se sent indigne des fois de venir au Seigneur puis de dire, Seigneur, il ne faut pas se sentir indigne. On l'est indigne. Puis, c'est pour ça que le Seigneur est venu, parce qu'on est indigne. C'est pour nous enlever cette indignité-là, nous donner la dignité que Christ nous a acquis à la croix. Le Seigneur Jésus, quand il est venu sur la terre, nos soucis, nos inquiétudes, il a goûté à ça, il a été soumis à ça, mais il a eu la victoire de ça. Alors il sait, lorsqu'on vient à lui, puis qu'on verse nos cœurs, il sait de quoi qu'on parle. Le psaume 73... les versets 26 à 28. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. » Puis après ça, regardez ce qu'il dit. C'est Asaph, c'est un chant. Il dit, « Pour moi, verset 28, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter tes œuvres. » Ici, Asaph, il a vécu, il a expérimenté que c'était bon de se réfugier auprès de l'Éternel. Il y a beaucoup de refuges autres possibles. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres refuges possibles. Quand ça ne va pas bien, je peux courir chez le psychologue. Là, je ne dis pas que c'est pas bon le psychologue. Il y a des circonstances que c'est nécessaire. Mais on peut faire ça. Ou on peut fumer un petit peu de cannabis. D'abord, ça, c'est légal maintenant. Qu'est-ce que ça fait? Bien là, quand on fait ça, les soucis, là, ils s'envolent un peu, là. Ou prendre un coup pour oublier mes problèmes. Mais le lendemain matin, quand je me réveille, les problèmes sont encore là, plus un mal de tête. Alors, m'approcher de Dieu, Asaph, il a expérimenté ça. Il dit, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Ésaïe, verset 26, chapitre 26, verset 3 et 4. « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. » Ferme dans nos sentiments, ça veut dire que quand on prend une décision, qu'il faut la garder. De ne pas se relâcher. Dès qu'il y a des gros nuages qui apparaissent, je sais où aller me réfugier. Crier à l'Éternel quand ça va mal, puis n'en faire aucun cas quand ça va bien, ça, c'est pas une bonne recette, par exemple. Ici, le prophète Ésaïe donne une bonne raison pour laquelle on doit se confier ou on peut se confier en l'Éternel. Il dit, il est le rocher des siècles. Il dit, confiez-vous à l'Éternel à perpétuité. C'est quoi à perpétuité? Ça veut dire que c'est pas garanti 50 ans ou 100 ans. C'est tout le temps. Ça va tout le temps être bon. Une garantie à vie. À la vie éternelle. Et il nous dit une autre raison. Il dit, il est le rocher des siècles. Il est le rocher des siècles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est solide. Puis ça, c'est pas juste là, de cette semaine, là. C'est des siècles, c'est depuis la création. L'Éternel est le rocher des siècles. Quand il y a des glissements de terrain, comme on a vu aux nouvelles cette semaine, là, c'est jamais les rochers qui s'en vont, là. C'est pas le roc, c'est le sable, la glaise, c'est les terrains qui n'ont pas de fondement solide. L'Éternel, il est un rocher, il est inébranlable. Puis ça, depuis la création du monde, à travers tous les siècles. Dernier point, l'Éternel est un refuge. L'Éternel est un refuge pour notre repos éternel. Le psaume 16, les versets 7 à 10. Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit... Même mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Alors ça, c'est comme un psaume prophétique du Seigneur Jésus, finalement, qui s'applique aussi aux enfants de Dieu. Lorsqu'on va quitter cette terre, c'est pas pour la corruption, c'est pas pour la mort spirituelle, mais c'est pour la vie spirituelle, comme on va le voir. Ésaïe 45, 17, c'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, un salut éternel, Vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité. Lorsqu'on va quitter cette terre, on ne sera pas confus, on n'arrivera pas face à un juge, on va arriver face à notre Père céleste. L'apôtre Jean dit, je leur donne la vie éternelle. C'est le Seigneur Jésus qui dit ça, je leur donne la vie éternelle dans Jean 3,16. Et je leur donne la vie éternelle, ils ne périront jamais. Dans Jean, au chapitre 14, le verset 1 à 4, ici encore, le Seigneur qui parle, il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Alors, il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Il dit, je vais vous préparer une place. Dans le ciel, il y a une place où c'est marqué Paul Giguère, où c'est marqué Gilles Nadeau, où c'est marqué Jocelyne. Je vais vous préparer une place. Quand est-ce qu'il a fait ça? Quand il est ressuscité, qu'il est monté au ciel, je m'en vais vous préparer une place. Puis, la fin de ça, qu'est-ce que ça va être? Il dit, je vais revenir, puis je vais vous prendre avec moi, pour que là où je suis, là où ce que mon Père est, que vous soyez là avec nous autres, vous autres aussi. Et l'apôtre Paul parle aux Thessaloniciens, puis les Thessaloniciens, ils se posaient des questions, une jeune église, puis ils se posaient des questions sur qu'est-ce qui va arriver là, qu'est-ce qui va nous arriver, qu'est-ce qui est arrivé à nos frères et sœurs qui sont morts, qu'est-ce qui va nous arriver. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18, encore là un passage qu'on connaît très bien. L'apôtre Paul dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas de point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Si on croit que Jésus il est mort et qu'il est ressuscité, bien que nous autres, on va mourir puis on va ressusciter puis on va revenir avec lui, c'est la même foi qu'on a besoin que celle qu'on a pour croire que le Seigneur Jésus est ressuscité. C'est comme ça va ensemble. Si tu crois ça, que le Seigneur est ressuscité, bien tu crois aussi qu'il va venir. Il va venir puis il va te prendre avec lui. Il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Alors, si on vit jusqu'à temps que le Seigneur revienne, c'est comme ça que ça va se passer. Il dit, on ne devancera pas ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts dans la foi, ils vont ressusciter premièrement, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ vont sortir de la tombe, puis ils vont monter au ciel, puis ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alors, les chrétiens morts vont ressusciter, puis ils vont monter au ciel, on va monter avec eux autres au ciel. Et ainsi, qu'est-ce qui va arriver? Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Puis l'apôtre Paul, probablement que les Thessaloniciens, ils étaient peut-être en deuil. Il y avait de la persécution, peut-être qu'il était en deuil. Il dit, consolez-vous les uns les autres avec ces paroles. Si vous perdez des êtres chers, consolez-vous parce que c'est pas la fin. C'est pas comme ça que ça finit, c'est pas la fin de l'histoire. Jean 10, versets 27 à 30. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors, quand on appartient au Seigneur, il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour du Seigneur Jésus envers nous. Il dit, ils ne périront jamais. On ne verra pas la mort spirituelle. Il est question de la vie spirituelle ici, de la mort spirituelle. Je n'ai pas marqué la référence, mais c'est Jésus qui parle aux sœurs de Lazare. Lazare est mort, puis Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Est-ce que vous croyez cela, que quand vos yeux vont se fermer, que votre cœur va arrêter de battre, que votre esprit, il n'y a pas un blackout qui va se faire, puis qu'à un moment donné, vous allez vous réveiller dans un an ou dans 100 ans ou la semaine prochaine. Non, il n'y a pas d'intermission. Jésus est la résurrection et la vie. Puis quand on accepte le Seigneur, il nous donne cette vie-là. Puis il dit, celui qui croit en moi vivra, quand même qu'il serait mort, même s'il y a un cancer, puis il est mort, il meurt, il va vivre, il va continuer de vivre. Crois-tu cela? L'Éternel est un refuge pour le salut éternel. Lorsque les jours de la fin approchent, puis qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer après, un ami un frère que je connais, avant qu'il soit sauvé, il avait entendu l'Évangile. Puis son père aussi avait entendu l'Évangile. Puis un lundi matin, il rentre au travail, tout triste. Puis son patron, qui était un chrétien, il lui dit, « Qu'est-ce que tu as? » On dirait que t'es tout triste. Il dit, « Mon père est mourant, puis il ne sait pas où il s'en va. » D'être face à la mort, puis de ne pas savoir où est-ce qu'on s'en va. Quel drame, quel drame. L'Éternel est pour nous, les chrétiens, un refuge. Quand cette éventualité-là va se présenter, on sait une chose, c'est que c'est pas la fin. Oui, on va quitter le monde, ce monde, on va laisser derrière nous des amis chers, des frères, des sœurs, des amis chers, mais on va se trouver dans la présence du Seigneur. Puis ceux qui sont restés en arrière, puis qui appartiennent au Seigneur, vont venir nous rejoindre un jour aussi. Psaume 46, 2 à 4, on l'a lu tantôt, je vais vous le relire. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Quand on a besoin de secours, que ce soit un secours tangible, matériel, ou un secours pour nos cœurs, le Seigneur, il manque jamais. Le Seigneur, il manque jamais. En terminant, dernier verset, Proverbe 18, 10, tu ne l'as pas, je pense, Galande. « Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Si dans nos vies, on a besoin d'un refuge, si dans nos vies, on vit des choses difficiles, qu'on a des obstacles, qu'on a de la crainte, qu'on a des inquiétudes, qu'on a de l'anxiété. Nous autres, les chrétiens, on a un refuge où on peut aller. Puis ce refuge-là, comme je vous ai dit tantôt, un refuge, c'est une place où ce que quand la grosse orage prend, il ne faut pas courir des milles, c'est la première place qu'on voit qu'on peut s'abriter, on va là. L'Éternel, il est comme ça. Dès qu'il y a un nuage qui arrive, on peut venir au pied du Seigneur, s'y réfugier, puis trouver le repos pour nos cœurs, puis pour nos corps aussi. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il nous donne la grâce de s'abriter sous le refuge qu'il nous offre.